tout le monde me connaît pas en fait. Donc je m'appelle Jacques, enfin, parce que je suis venu le 15 septembre, mais il y a des visages nouveaux que je ne connais pas trop. Alors donc je suis le nouveau stagiaire. Hein, donc je suis le nouveau stagiaire. Donc comme c'est l'Union des églises libres qui a bien accepté que je fasse ce stage parmi elles. Et donc Bergerac, votre église, a accepté que je le fasse. Donc ça va durer une année. Donc vous allez me supporter une année. Hein. Pas tout le temps, je vous rassure. Voilà, donc moi j'habite à Bordeaux, hein, et je continue mon travail professionnel en même temps. Hein, donc c'est ce qui explique que je ne suis pas là tout le temps, aux côtés de Pascal. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour partager la parole. La parole de Dieu avec vous. Donc ne soyez pas trop étonnés, hein, mais pour ce dimanche 6 octobre, Pascal et moi, on a choisi comme texte de la prédication, en fait, le même texte de l'Évangile que celui de dimanche dernier. Hein, donc ne soyez pas surpris, ça sonnera quelque chose dans vos oreilles, quelque chose de connu. C'est aussi le texte qu'on travaille dans les groupes de maison en ce moment. Hein, donc, en fait, l'objectif, pourquoi on a choisi ça, je pense que l'objectif, c'était, c'est intéressant, hein, de temps en temps, de ruminer, hein, en communauté un seul et même texte. Hein, et donc, dans l'espace d'une semaine ou peut-être de deux semaines, ça peut nous ouvrir à autre chose. Hein. Donc que cette approche, hein, nous permette, hein, de mesurer en fait la grande richesse de l'Écriture. Hein, on le voit souvent dans l'intervalle de nos vies, on revient sur des textes et puis on voit des choses différentes. Et en communauté, quand on peut partager un même texte, c'est toujours intéressant, c'est toujours riche. Hein, voilà. Donc que nous puissions entrer dans ce temps. De l'étude de texte avec cet état d'esprit. Donc nous allons prendre ensemble le texte de Jean, hein, au chapitre 8, des versets 1 à 12. Alors je me suis permis de rajouter un verset par rapport à la prédication qu'a faite le texte de la semaine dernière. Et ils s'en allèrent chacun chez soi. Quant à Jésus, il s'en alla au mont des Oliviers. Mais à l'aurore, il se présenta de nouveau dans le temple. Et tout le peuple venait vers lui, et s'étant assis, il les enseignait. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu, ils lui disent « Maître !» Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, écrivait du doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Et de nouveau, se baissant, il écrivait sur le sol. Quand ils eurent entendu, ils se retiraient un à un, en commençant par le plus vieux, et il resta seul avec la femme qui était là. Au milieu. Se redressant, Jésus lui dit « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ?» Elle lui dit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. » De nouveau donc, Jésus leur parla en disant « Moi, « je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour cette parole, qu'elle puisse rentrer dans notre cœur. Mais pour cela, ouvre nos oreilles, Seigneur. Ouvre-les pour que qu'on soit attentif à ce que tu as à nous dire ce matin. Seigneur, sois avec ton serviteur, qu'il puisse dire les paroles que tu veux dire maintenant à notre assemblée. Amen. Dans cette rencontre entre les pharisiens et Jésus, deux postures se font face. La posture des pharisiens et bien sûr la posture de Jésus. La posture des pharisiens est celle de l'accusation, de la condamnation, on l'a bien entendu. La femme adultère a péché et doit être lapidée, car Moïse l'a commandé dans la loi. La posture de Jésus est celle de la miséricorde. Cette femme a péché, mais n'est pas condamnable, car tous les hommes sont pécheurs. On peut dire assez facilement que la posture des pharisiens est une posture que j'appellerais objet, et que la posture de Jésus est une posture que j'appellerais sujet. On le voit tout au long du texte, si on regarde un petit peu le déroulement du texte. Les pharisiens placent la femme au milieu du peuple, tel un objet, tel un cas à étudier. D'ailleurs, elle ne parle pas. Le seul dialogue rapporté au début du récit s'établit entre Jésus et les pharisiens. Si vous avez bien entendu, c'est une discussion de deux personnes sur une troisième, typique d'une étude de cas. D'ailleurs, les pharisiens appellent Jésus « maître », c'est-à-dire « enseignant ». Les pharisiens situent la discussion au niveau du savoir, on va dire aussi de la théologie. Les pharisiens veulent connaître la position de l'enseignant Jésus face au cas qui se présente, une femme prise en flagrant délit d'adultère. La femme n'a rien à dire, car son cas est déjà réglé par la loi de Moïse. Elle doit être lapidée. Les pharisiens sont bien dans une posture objet. Jésus, lui, est dans une posture sujet, dans la posture que on pourrait aussi appeler de la relation. On le voit à plusieurs endroits aussi dans le texte. D'abord, quand Jésus se baisse. Ensuite, quand Jésus ouvre le dialogue, demandant à la femme si quelqu'un l'a condamné. Et enfin, magistralement, quand la femme lui répond, qu'est-ce qu'elle lui répond ? Personne, Seigneur. Vous avez noté, la femme appelle Jésus Seigneur, alors que les pharisiens l'appellent maître. Par ce mot « Seigneur », la femme devient un sujet parlant, parlant à son Seigneur. Jésus a désarçonné la posture des pharisiens pour faire entrer cette femme dans une relation avec son Seigneur. Mais on peut se poser la question, pourquoi les pharisiens sont-ils dans une posture objet ? Pourquoi donc ? D'abord, parce qu'ils veulent pouvoir accuser Jésus. Ça, c'est ce que dit le verset 6. Mais il y a une raison plus profonde. Et Jésus le leur dit un peu plus tôt dans l'Évangile, à la fin du chapitre 5. Dans ce chapitre, Jésus explique aux pharisiens d'où vient cette différence de posture entre lui et eux. Et cette différence vient des Écritures, c'est-à-dire pour nous l'Ancien Testament. Cette différence vient de la manière de considérer les Écritures et vient de ce dont les Écritures parlent pour eux. Écoutez ce que Jésus dit aux pharisiens à la fin du chapitre 5. Écoutez bien. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus nous apprend que les pharisiens pensent que les Écritures contiennent la vie éternelle. Alors que Jésus leur dit, je paraphrase un peu, « Non, les Écritures ne contiennent pas la vie éternelle, elles rendent uniquement témoignage de moi. La vie est de venir vers moi, venir vers celui dont témoignent les Écritures. Et ça, c'est un peu différent. » C'est pas tout à fait pareil. D'un côté, des Écritures qui contiennent la vie éternelle, et de l'autre, des Écritures qui témoignent de Jésus. En fait, le problème des pharisiens est que pour eux, les Écritures sont closes. Elles sont constituées d'un nombre fini de mots, d'un nombre fini de pages. Comme ce livre. Or, comme ils pensent que la vie est contenue dans ces écritures closes, il suffit de l'étudier et de l'appliquer pour avoir la vie. C'est facile. Pour les pharisiens, c'est la toute-puissance du savoir. Et c'est normal, car les écritures sont closes pour eux, complètement accessibles, connues. Dans ce système-là, il n'y a pas besoin de discussion. On l'a vu avec la femme. Elle ne dit mot. Elle n'a pas besoin d'être interrogée parce qu'ils savent. Ils savent. Avec la femme, il n'y a pas besoin de discuter. On vient de le voir. Mais on le voit ailleurs dans le même évangile et on le voit dans les versets qui précèdent juste notre texte. À la fin du chapitre 7. C'est une altercation entre Nicodème, lui-même pharisien, avec d'autres pharisiens. Nicodème, souvenez-vous, c'est celui qui est venu voir Jésus la nuit au chapitre 3. Nicodème, dans ce passage, est violemment pris à partie par les siens, car il ose dire qu'avant de condamner Jésus, les pharisiens pourraient l'entendre. Écoutez ce qu'il dit. « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il fait ?» dit Nicodème. Et écoutez leur réponse. Et il leur répondit. « Es-tu aussi galiléen ? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » C'est clair. C'est net, c'est sans bavure. D'après toutes les études qu'ils ont faites des Écritures, il ne peut rien sortir de Galilée. Donc, ce n'est même pas la peine d'entendre quoi que ce soit de Jésus, qui est galiléen. Clôturer les Écritures comme le font les pharisiens amène inéluctablement à l'aveuglement, à la non-ouverture vers celui qui vient, Jésus. Mais qu'est-ce qui change quand Jésus affirme que les Écritures témoignent de lui ? Qu'est-ce qui change ? Cela change déjà une chose au moins, c'est que la vie n'est plus contenue dans les Écritures. Comme le dit Jésus, la vie est transmise par une proximité avec celui dont témoignent les Écritures. Mais comment faire pour connaître celui dont témoignent les Écritures ? Comment faire ? Mais bien sûr, en lisant les Écritures. Comme nous le faisons ce matin, et comme des générations avant nous l'ont fait aussi. Mais il y a un risque, et le risque est de croire, comme les pharisiens, que les Écritures sont closes. Si on pense que les Écritures sont closes, le risque est de penser que Jésus est contenu dans les Écritures et que leur seule étude permettrait de s'approcher de lui pour avoir la vie. C'est un grand danger. En fait, pour éviter à l'homme de tomber dans ce piège, Jésus ouvre les Écritures. Jésus ouvre les Écritures. Elles ne sont plus closes comme pour les pharisiens. Et Jésus ouvre les Écritures magistralement dans ce texte. Il ouvre les Écritures sous les yeux du peuple, sous les yeux des pharisiens, sous les yeux de la femme. Il ouvre les Écritures en se baissant et en écrivant sur le sol. En écrivant sur le sol, Jésus ajoute de l'Écriture aux Écritures. Et la particularité de cette Écriture est qu'elle est inconnue. Elle est inconnue. Jamais personne ne la connaîtra d'ailleurs. Cette Écriture échappe à la connaissance humaine, mais on sait qu'elle est là. Cela signifie que par cette Écriture, Jésus ouvre pour toujours les Écritures des pharisiens. En écrivant sur le sol, Jésus montre à tous que les Écritures sont ouvertes et que l'homme ne pourra jamais les fermer, car ce que Jésus écrit est inconnu. Pour Jésus, les Écritures témoignent de lui. C'est donc normal que ces Écritures soient ouvertes. Jésus ne peut être contenu dans un texte. C'est ce que signifie Jésus en écrivant sur le sol. Jean, souvenez-vous, à la fin de son évangile, confirme cette hypothèse de la non-clôture des Écritures. Écoutez, c'est le dernier verset de l'évangile de Jean. C'est aussi le dernier verset des évangiles. Écoutez-le. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. À la fin de son évangile, Jean lui-même admet que les Écritures ne contiendront jamais le Christ. Jésus les ouvrira d'ailleurs définitivement à la résurrection. Qu'est-ce que cela doit nous inspirer de cette ouverture définitive des Écritures? Cela doit nous inviter à l'humilité. Humilité face à nos interprétations, face à nos certitudes, face à nos convictions. Pas tellement par rapport à nous-mêmes, par rapport à soi, mais par rapport aux autres. Cela doit nous inviter aussi à écouter les autres, à les écouter. Car nous ne connaissons pas tout des Écritures. En fait, en écrivant sur le sol, Jésus invite l'homme, Jésus nous invite à une relation avec lui, pour mieux le connaître. Il nous invite pas seulement à l'étude des Écritures, qui est aussi importante, mais aussi et surtout à une relation avec lui et avec les autres. Faire l'expérience d'une relation, c'est mieux le connaître. C'est aussi s'approcher de lui et s'approcher de lui. C'est avoir la vie. C'est exactement ce que fait cette femme. Par ce qu'elle vient de vivre, cette femme découvre qui est Jésus. Elle le découvre par une expérience singulière, on peut dire très singulière même, propre à elle. Cette expérience et cette part inconnue des Écritures, c'est la sienne. Cette expérience est inédite, individuelle. Jésus se révèle à elle ce matin-là et ce n'est pas dans une Écriture connue. En disant, Personne, Seigneur. La femme saisit la main que Jésus lui tend. Car le premier à vouloir cette relation, c'est Jésus. C'est lui qui tend la main à cette femme. C'est lui qui la sauve. On peut maintenant se demander, mais pourquoi donc l'homme est-il tenté d'interpréter les Écritures comme les pharisiens ? Pourquoi donc ? Eh bien, c'est très simple. Cela évite d'en passer par Dieu et d'en passer par les autres. Oui, oui, vous avez bien entendu. Cela évite d'en passer par Dieu et d'en passer par les autres. Si on pense que la vie, que Dieu, que Jésus sont seulement dans les Écritures connues, il suffit de scruter les Écritures et le tour est joué, comme le font les pharisiens. Il n'y a pas besoin d'entrer dans une relation, il n'y a pas besoin de s'approcher d'un autre. C'est un système qui tourne sur lui-même. Dans ce système, il y a moi, moi et moi. Écoutez ce que Jésus dit encore aux pharisiens, toujours dans ce chapitre 5. « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez gloire les uns des autres, et la gloire qui vient du Dieu unique, vous ne la cherchez pas ?» Dans une interprétation pharisienne des Écritures, Jésus dénonce qu'on s'autoglorifie au lieu de chercher la gloire de Dieu. Du coup, on peut dire facilement que le système de l'accusation tourne sur lui-même. Il n'y a pas besoin de vis-à-vis dans ce système-là. D'ailleurs, on a bien remarqué qu'il n'y a aucune parole entre les pharisiens et la femme adultère. Les pharisiens sont enfermés dans leur tour d'ivoire. L'accusation tourne sur elle-même. Quand on accuse, il n'y a plus de relation. On reste tout seul dans son savoir, dans ses certitudes. Avoir une interprétation pharisienne des Écritures évite d'en passer par Dieu. Cela évite donc aussi de croire, car toutes les Écritures sont connues. Jésus le dit aux pharisiens à la fin du chapitre 5, toujours dans le même passage. « Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est de moi qu'il écrit. » Jésus dénonce le manque de foi des pharisiens. Mais en fait, ils n'ont pas besoin de foi, car pour eux, ils connaissent tout des Écritures. Rien n'est inconnu. Il y a donc une interprétation croyante des Écritures et une interprétation incroyante. L'interprétation incroyante des Écritures est de savoir que Moïse condamne cette femme car adultère. L'interprétation croyante est de croire que Moïse ne la condamne pas, car Moïse a écrit de Jésus. Là, on est dans la vraie foi, car on est hors du savoir, hors du connu. On croit à la parole de Jésus. L'interprétation croyante des Écritures est à l'image de la foi de cette femme, foi en l'inconnu d'une relation à Jésus, son Sauveur. Si les Écritures témoignent de Jésus, c'est pour une relation, pour que l'homme s'ouvre à l'autre, s'ouvre à Dieu, s'ouvre à autre que lui-même. Ce n'est pas pour qu'il se renferme sur lui-même, comme le font les pharisiens. Jésus ne condamne pas cette femme. Il ne la condamne pas car cette femme s'est ouverte à lui. Jésus l'entend par les deux seuls mots qu'elle prononce. Personne, Seigneur. En appelant Jésus Seigneur, la femme accepte la relation que Jésus lui propose. La femme s'ouvre à autre qu'elle-même. cette histoire transforme cette femme de tourner sur elle-même jusqu'à commettre un adultère, la voilà qui s'ouvre à son Sauveur en l'appelant Seigneur. Pas de confession, pas de sacrifice, juste un mot, Seigneur. Voilà l'œuvre du Christ, restaurer le lien avec cette femme pour qu'elle vive pleinement, car on ne vit pleinement qu'en relation. L'histoire de cette femme est une belle histoire, car on se rend compte que la femme entre en relation avec Jésus par le biais de son péché. Mais à tout y réfléchir, c'est comme nous. Qui d'entre nous n'est pas entré en relation avec le Christ autrement que par son péché? Qui? Le péché, c'est l'absence de relation, c'est le moi dominant. Le Christ tend la main aux pécheurs, non pour les condamner, mais pour les sauver de leur moi. Quand il se lève et dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, c'est encore du côté de la relation que Jésus désarçonne les pharisiens. Il n'a pas un débat dogmatique, théologique avec les pharisiens. Il les met en face de leur non-relation avec Dieu, de leur non-relation avec les autres, en partant les uns après les autres. Il montre au peuple l'impasse de leur système pharisien, l'impasse des Écritures closes qui contiendraient la vie éternelle. Cela donne aussi une autre tonalité à la dernière parole de Jésus à la femme. « Va et ne pêche plus ». Cette mission de ne plus pécher est bien sûr impossible. C'est impossible de ne plus pécher. À l'image de tous les pharisiens qui partent un à un, si Jésus lui dit ça, c'est simplement pour lui dire que si elle pêche, ce sera pour mieux se rapprocher de lui une nouvelle fois, pour qu'elle lui dise une nouvelle fois, Seigneur. Quand les pharisiens placent la femme adultère au milieu du peuple, Jésus est en train d'enseigner. Il est en train d'enseigner. Vu le dénouement de cette histoire, il n'y a aucun doute que cette histoire fait partie de son enseignement. Et vous l'avez entendu, le verset 12, Jésus conclut en disant « Moi, je suis la lumière du monde. » Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus nous tend la main comme il l'a tendue à la femme adultère. Il nous la tend pour faire de nous une créature nouvelle. Quand nous nous apprêterons à prendre sa main, rappelons-nous que les pharisiens ont appelé Jésus « Maître » et que la femme a appelé Jésus « Seigneur » pour la gloire du Père. Amen.